fait aussi un survol de l'Évangile de Jean. Et là, maintenant, on est dans le chapitre 1. On finit le chapitre 1 ensemble aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur Dieu, je te prie que cette parole-là, Seigneur Dieu, elle nous interpelle aujourd'hui. Puis que je sois capable, Seigneur Dieu, de bien dispenser droitement de ta parole, Seigneur. Aide-nous à comprendre ce qui est important dans ce message-là pour nos vies, au nom de Jésus. Amen. Donc, la première partie du chapitre, c'était le logos, c'était la parole, le mot grec pour parole. Puis on voit souvent la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et on s'aperçoit que cette parole-là a un nom, et ce nom-là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et dès les premiers versets, on réalise qu'on peut devenir un enfant de Dieu et que notre vie peut changer pour la suite, puis notre éternité peut être impactée. Dès le premier chapitre, on s'aperçoit de ça. Et donc, aujourd'hui, je rappelle que l'Évangile de Jean, on pourrait dire que c'est un recueil de témoignages. Témoignages de Jean-Baptiste, témoignages de Pierre, témoignages de Marc, témoignages de Pierre, témoignages de Philippe ou de Nathaniel, témoignages de la femme au puits, témoignages de Pilate, comme on a vu à part. Des rencontres avec le Seigneur Jésus qui se traduisent par j'ai rencontré le Seigneur et ça a changé ma vie et j'aimerais vous en parler. Ça se passe sur 4 jours et là, on voit que déjà dès le verset 19, c'est plus le même style littéraire du tout. Au début, c'était Jésus qui était avant la création, qui a créé toute chose. T'sais, il était dans le sein du Père, il était près du Père, ceux qui l'ont reçu, ceux qui ne l'ont pas reçu. Ça. Puis là, paf! Là, ça parle de Jean-Baptiste et ça donne son témoignage. Donc, le premier témoignage qu'on lit dans l'Évangile de Jean, c'est le témoignage de Jean-Baptiste. Et on va s'apercevoir que dans les 4 premiers jours du ministère ou de la vie publique de Jésus, il y a déjà 5 disciples, 5 nouveaux disciples qui se joignent. Et c'est tellement important de constater ça que Jésus est venu pour qu'on soit ses disciples. Et qu'on puisse aller. Les évangiles finissent toute la gang avec aller puis faire des disciples, tu sais, aller annoncer la bonne nouvelle. Mais Jean lui commence avec faire des disciples. Tu vois que c'est un thème qui est très fort dans l'évangile de Jean, l'idée de rencontrer Jésus puis de le suivre. 3 fois dans le texte, on va voir qu'il y a le lendemain. Le lendemain. Le lendemain. Et c'est là qu'on s'aperçoit que c'est très rapproché, ces événements-là que je vais vous raconter. Et on va parler de lieu aussi. Le premier jour, le premier et le deuxième jour, ça se passe à Béthanie, au-delà du Jourdain. Donc, on voit Jérusalem ici et au nord-est, dépasser la rivière du Jourdain. Donc, ce n'est pas en Judée. C'est plus dans le coin de Jéricho, mais l'autre côté de Jéricho. Donc, où est-ce que jour 1, jour 2, Jean-Baptiste, c'est là que ça va se passer les 2, 3 premiers jours. Et qu'est-ce qui se passe au départ? Ce sont des interrogations. On vient l'interroger. Les hommes religieux viennent l'interroger, pour savoir, ça pique la curiosité parce que tout le monde vient se faire baptiser par Jean-Baptiste. Fait que la curiosité est piquée. On vient soit se faire baptiser, et ça, c'est vraiment une photo qui a été prise là, au nord-est, à Béthanie. Ce n'est pas la Béthanie de Marthe et Marie, là. Okay? La Béthanie de Marthe et Marie, puis Lazare, là, c'est pas loin d'ici. Donc, c'est une autre Béthanie. Il se fait interroger, on va en parler tout à l'heure. Et après ça, ben, on voit dans le texte, au verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Donc, Jean-Baptiste se fait interroger. Il n'avait pas encore rencontré le Seigneur. En tout cas, il connaissait qu'il y avait un petit cousin, fils de Marie. Lui était. Les deux femmes ont été enceintes en même temps. Fait que, tu sais, il connaît des choses là, sur son petit cousin, là. Mais il n'a pas encore vu l'événement de son baptême. Là. Le baptême de Jésus n'a pas encore eu lieu. Et là, dans le fond, le lendemain, en fait, ici, là, quand c'est écrit, il vit Jésus venant à lui, c'est là que Jean-Baptiste, il est en train de baptiser du monde. Puis là, à un moment donné, bien, il y en a un qui arrive, puis il n'est pas comme les autres. Là. Puis il se passe quelque chose qui n'arrive pas quand tu baptises quelqu'un habituellement. Alors ça va le frapper. On va en parler tout à l'heure. Puis ensuite, donc, on est rendu au jour 3. Puis encore dans le texte, au verset 35, le lendemain, Jean se tenait là. Bien, ça se peut qu'il se tenait à Béthanie ou en Judée. Mais toute la gang qu'on rencontre, ils ne restent pas là. Il reste à 160 km au nord, soit à Capernaum, soit à Cana ou dans ce coin-là. Fait que c'est une grande fête en Israël. C'est sûrement la Pâque, la première Pâque de notre Seigneur. Donc, les gens qui habitaient le nord, la Galilée, étaient descendus et avaient coutume de descendre au moins pour la Pâque. Mais il y avait d'autres fêtes aussi dans l'année où on voyageait. Et va rencontrer d'autres personnes là. Jean se tient là, puis là, il va voir le Seigneur Jésus encore passer, puis là, il va le pointer, puis il y a d'autres disciples qui vont le suivre à ce moment-là. Puis finalement, le lendemain, encore une fois, au verset 43, Jésus voulait se rendre en Galilée. Et le chapitre 2 rouvre avec un miracle qui a eu lieu à Cana, la multiplication du vin. Donc, c'est à quelque part ici, à 12 km de Nazareth, je pense, au sud. Donc, c'est un petit peu le topo. 4 premiers jours, puis un petit peu de géographie à savoir là, pourquoi tous ceux qui restent au nord, ils rencontrent au sud. Donc, j'ai pensé que c'était important pour nous autres de comprendre ça. Dans un message précédent, j'ai dit que Jean, il utilise 100 fois le trio rendit témoignage, témoigna, là, tu sais, tout le verbe là, rendre témoignage, livrer son témoignage, témoigner, c'est vraiment 3 fois plus que tous les évangiles combinés. Donc, l'évangile de Jean, c'est un recueil de témoignages de gens qui témoignent quoi? J'étais aveugle, puis à ce temps, je vois. Fait que, regarde, c'est passé quelque chose. Je ne sais pas c'est qui est, ou le paralytique, tu sais, avant, je ne marchais pas, je marche. Tu sais, il y a des témoignages comme ça. Et donc, ça a une structure de donner son témoignage en cours. Ah oui, puis j'ai marqué ici le nom des disciples qui se sont ajoutés là, à chacune des journées. Donc, ça a la structure d'un petit peu d'être appelé en témoignage. Des fois, c'est les autorités juives qui essayent de sonder les gens qui ont reçu un miracle pour essayer de leur faire avouer que Jésus est un charlatan. Mais il y a souvent cette idée-là de livrer son témoignage. Et donc, Jean-Baptiste, lui, il va livrer son témoignage parce que les autorités religieuses viennent. Hein? On a dit que la première phase, c'était les interrogations. Fait qu'ils viennent. Puis là, il y a différentes autorités religieuses qui viennent. Et Jean-Baptiste va dire, je ne suis pas. Il va commencer par ce qu'il n'est pas, en voulant dire, hey, capotez pas avec moi, là. Si vous capotez avec moi, imagine celui qui vient après moi parce que moi, je suis pas ça, je suis pas ça, je suis pas ça, je suis pas ça. Il arrête pas de dire de ce qu'il n'est pas. Il dit, je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas Élie, je ne suis pas le prophète. Fait qu'on lui dit, dans le fond, on lui pose la question, es-tu le Messie? Non. Est-ce que tu es Élie? Non, 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 je ne suis pas. Est-ce que tu es le prophète? Non, non, je ne suis pas ça. Et il va dire, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et donc, lui, là, il ne se voit même pas comme le messager. Et on voit, c'est un thème qui est important, ça, à comprendre. C'est dès dans le prologue, on entend parler de Jean-Baptiste, puis on dit, hey, Jean-Baptiste, il était pas la lumière, mais il est venu rendre témoignage à la lumière. Au chapitre 5, c'est écrit, il est une lampe à laquelle vous êtes venu vous réjouir. Il est une lampe, il n'est pas une lumière, il est une voix, il n'est pas un messager, il n'est pas Messie, il n'est pas prophète, il n'est pas. Ce qui compte pour Jean-Baptiste, c'est le message. On a vu à Pâques dernièrement, que ce qui comptait pour Marie, ce n'était pas de reconnaître le Seigneur sous forme corporelle, mais c'était de s'habituer de plus en plus à son caractère et à sa nature. Parce que Jésus a été pour retourner au ciel, puis c'était plus de même que Marie était pour le connaître. Mais ce qui était important, c'était son message, c'était pas nécessairement par qui venait le message ou la manière même que le message était venu. Donc, dans l'Ancien Testament, on attendait ce personnage ici qui est Élie, qui avait été enlevé dans les cieux, sur un chariot de feu, puis il avait jamais, il était jamais revenu. Là, tu sais, fait qu'à un moment donné, on attendait qu'il se remonte la face. Puis il est attendu comme étant le précurseur ou celui qui va venir avant le Messie. Donc, chez les Juifs, dans la prophétie, on attend Élie, qui serait un prophète juste avant que le Messie vienne sur Terre. On attendait aussi le prophète. Dans Deutéronome 18, Dieu promet à Moïse qu'il enverra un prophète, un autre prophète comme Moïse dans le futur. Donc, on attend le prophète, puis on lit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 7, que les gens disent, est-ce que c'est le Messie? Non, non, d'autres disaient, non, non, ça serait le prophète. Fait que c'était deux affaires qui étaient différentes, là, qui étaient attendues. Alors, on lui pose la question, es-tu un de ces personnages importants-là? Sinon, pourquoi tu baptises? Hein? On va vraiment s'interroger par rapport à ça. Il y a trois types de leaders religieux qui sont là. Il y a les pharisiens, le texte nous dit, il y a aussi les prêtres et les lévites. Les prêtres et les lévites, c'est ceux qui s'occupaient de baptiser les gens. Donc, c'est eux qui baptisaient les gens. Et les seuls qu'on baptisait, c'était des gens qui n'étaient pas de la foi juive, qui étaient donc des païens. Souvent, ils adoraient d'autres dieux. Et le baptême voulait dire de s'identifier religieusement au peuple d'Israël. Donc, quelqu'un qui voulait suivre le Dieu d'Israël devait passer par le baptême des prosélytes. Prosélytes voulait dire ces nouveaux disciples-là qui veulent devenir juifs. Et donc, on se faisait baptiser et en faisant, on faisait une démarcation entre notre ancien passé religieux et le nouveau passé religieux qu'on s'identifiait maintenant à la religion juive. Là, Jean-Baptiste, il arrive avec un baptême qui n'existait pas avant lui, à part que pour devenir juif. Mais là, il baptisait des juifs. Là, les juifs, ils venaient et se faisaient baptiser par lui. Et c'est certain que là, c'est un nouveau mouvement religieux, là. C'est quelque chose de beaucoup plus supérieur à l'élite religieuse. Donc, tu as les pharisiens qui, eux autres, ça les titille. Tout le long que vous lisez les évangiles, vous voyez que ça les titille que Jésus ait une foule. Pourquoi? Parce que ce sont des enseignants qui aimeraient que leur mouvement, leur religion, appelez ça comme vous voulez, que la classe soit remplie. Puis Jésus ou Jean-Baptiste attire des foules, puis tout le monde vient pour être enseigné par lui. Puis là, les gens, dans le fond, ils ont une aspiration. Par contre, les gens ont une aspiration, ils s'attendent que, un peu comme en Ukraine, quelqu'un vienne nous délivrer de l'envahisseur. Puis l'envahisseur, dans ce temps-là, c'était Rome. Puis on voulait, dans notre cœur, ce qu'on voulait, c'est que le Messie vienne s'occuper du mal dans le monde. Puis le Messie dit non, moi, je viens de m'occuper du mal dans le cœur. Et Jean-Baptiste disait, celui qui vole, qui arrête de voler, puis que celui qui dit, tu sais, celui qui trompait ne trompe plus. Puis là, il va vraiment amener une réforme. Puis son message, il va dire, je suis la voix de celui qui crie. Et la prophétie, c'est la prophétie. Ah, je ne l'ai pas écrit. Je pensais que je l'avais écrit. Ah, ça doit être plus loin. Il y a donc une aspiration. Je vais voir si je l'ai juste dans mon texte, un peu plus loin. Dans Ésaïe 43 à 4, ça dit, la voix qui crie dans le désert, aplanissez les voies du Seigneur, rendez voies droites ses sentiers. Un peu comme un roi qui viendrait visiter une ville, puis là, tout le monde fait le ménage. Ça vous arrive-tu des fois de faire plus de ménage quand vous avez de la visite? Oui? La salle de lavage est pleine. On ouvre toutes les portes, mais pas la salle de lavage. On fait du ménage, la toilette à chaîne, tu sais, puis on veut montrer nos meilleurs. Couvert. Nos meilleurs, on sort la vaisselle. Mais c'est un petit peu ça, le roi des rois. Le roi de, puis c'est écrit, faites un chemin pour l'Éternel dans Ésaïe. C'est vraiment l'Éternel va venir nous visiter. Faites quelque chose. Puis occupez-vous pas du mal dans le monde, occupez-vous du mal dans le cœur. C'est un peu ça le message de Jean-Baptiste. Alors, donc les pharisiens, c'est sûr qu'eux autres sont titillés par les foules. Tandis que les prêtres et les lévites sont titillés par le fait qu'il y a un nouveau baptême qui n'existait pas avant, puis eux autres qui sont en train de baptiser. Jean-Baptiste est en train de baptiser pour un nouveau mouvement. Ils ne savent pas trop. Alors, il lui fait encore cette question, pourquoi tu baptises d'abord si tu n'es pas Christ, ni Élie, ni le prophète? Et donc, Jean-Baptiste va leur répondre en passant, Jean, il dit toujours Jean. Il dit jamais Jean-Baptiste. Il y a deux Jean, fait qu'il y a Jean, il ne se nommera jamais dans l'Évangile. Il va s'appeler l'autre disciple, le disciple que Jésus aimait. Il laisse la place à Jean-Baptiste, puis il l'appelle Jean. Fait que moi, je vais essayer aujourd'hui, quand je vais parler, de dire l'auteur, quand je parle de Jean, puis Jean-Baptiste, des fois, je vais dire Jean. Je vais essayer de ne pas vous mélanger avec ça. Donc, Jean-Baptiste, donc c'est Jean. Et il se fait poser la question suivante et il leur répond, moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, puis lui, il va venir après moi. Donc, il ne donne pas de réponse pourquoi il baptise. Il fait juste dire, moi, je baptise d'eau, mais il y en a un qui vient. Et donc, Jésus est pas, Jean-Baptiste, Jean n'est pas en train de baptiser pour une nouvelle religion, mais pour une nouvelle personne. Il veut que les gens qui vont se faire baptiser se fassent baptiser en fonction d'une personne qui va venir après lui, qui est beaucoup plus grand que lui. Fait qu'il ne répond pas au pourquoi, mais il répond qui. Et qui c'est? Ben, celui qui vient après moi, là, vous ne le connaissez pas, mais il est beaucoup plus grand que moi. En voulant dire, regarde, moi, je suis une voix, là, occupez-vous pas de moi. Ce que mon message, c'est, il y en a un qui vient préparer son chemin, puis il vient après moi, puis il est plus grand que moi. Et Jean réduit son importance. Regardez qu'est-ce qu'il va dire. Puis si on ne porte pas attention trop tôt, on peut passer par-dessus ça, mais il dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Un thème qui est utilisé ailleurs dans Jean pour parler de l'humilité aussi lors du dernier repas, quand Jésus va délier la courroie des chaussures des invités, puis il va laver les pieds des disciples. C'était la position de l'esclave qui n'avait pas de nom. Tu sais, c'était le dernier entré. Là, tu sais, là, on pitchait la job la sale besogne au dernier entré. Là, tu sais. Fait que le dernier serviteur, c'était lui qui lavait les pieds. Quand Jésus dit, quand Jean dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers, c'est je suis même pas digne d'être un de ses serviteurs. C'est un privilège que j'ai d'annoncer la bonne nouvelle, d'être une voix, même appelez-moi pas son messager, dites pas que c'est une lumière, c'est une petite lampe. Ce qui est important, c'est le message et non la personne qui livre le message. C'est ça que Jean-Baptiste veut nous faire comprendre. C'est pas qui le fait, c'est le message lui-même. Puis ça, c'est important pour nous qu'on comprenne ces choses-là. Notre rôle à nous autres, là, quand on annonce la bonne nouvelle, ce n'est pas de forcer les gens, c'est de réaliser que nous, même si on aurait tous les meilleurs arguments pour convaincre une personne, c'est l'Esprit de Dieu qui, avec la personne, une lutte qui commence, un dialogue qui commence où le Saint-Esprit vient convaincre les cœurs. Puis dès le chapitre 1, on voit que l'homme, même s'il voudrait, il ne peut pas être un enfant de Dieu, à moins que Dieu ne le veuille. Donc, on n'est pas de conception humaine, on n'est pas né de nouveau parce qu'on a décidé qu'on devenait né de nouveau. On a dit oui à l'invitation de naître de nouveau, mais c'est Dieu qui nous fait naître. Puis c'est la même chose, c'est pas parce qu'une personne a donné toutes les bonnes réponses à l'Évangile qu'elle est née de nouveau, c'est parce qu'elle a compris et elle a surtout placé sa confiance elle-même en Jésus. Puis même ça, si Dieu ne le voulait pas, ça ferait rien. Mais parce que Dieu le veut, la personne naît de nouveau, reçoit le don de la vie éternelle, et là, ça change tout. Mais nous autres, on est des intrus dans ça. On est des intrus de, tu sais, quand vous voyez quelqu'un venir au Seigneur, là, c'est comme si Dieu te laissait rentrer un petit peu, là, tu sais, dans la salle d'accouchement, entre guillemets. T'es comme un témoin de ce qui est en train de se passer de merveilleux entre la personne puis le Saint-Esprit. Mais Dieu, il ne fera pas sans nous, par exemple. Puis ça, c'est important aussi qu'on le sache. Oui, ailleurs, il dit, si tu te tais, les pierres vont crier. Parce que Dieu, il veut sauver, fait qu'il va faire crier une pierre pour qu'il y ait quelqu'un qui soit sauvé. Mais on doit réaliser, par exemple, un peu comme Jean-Baptiste, que, on ne peut rien faire sans son aide à lui. Et donc, on a toutes sortes de choses qu'on peut faire, par exemple, pour attirer la curiosité des gens qui ont commencé à répondre à l'invitation du Seigneur. Il y a des gens qui vont sur les médias sociaux. Il y a une femme qui s'appelle Méliane Bourassa sur TikTok. Puis elle, dans le fond, elle prend une minute, là, puis elle parle de Jésus. C'est Jésus. Là, puis elle se fait haïr, là, elle se fait écrire des commentaires haineux. Puis tout, fait qu'elle-même, elle dit que ce n'était pas bon pour ma santé psychologique. Fait qu'il y a quelqu'un qui lit les messages puis qui dompe là, toute la cochonnerie, là. Elle a eu plein de discussions, là. Elle a eu des centaines de discussions. Donc, nous sommes le sel de la terre et nous sommes là pour attirer les curieux parce qu'on a une vie avec Dieu. Et il y a des gens que Dieu a commencé à réveiller, qui ont répondu à l'appel du Seigneur. Puis, il y a deux types de curieux. Les curieux qui cherchent à discréditer et il y a les curieux qui veulent en savoir plus. Et d'une certaine manière, dans l'Évangile de Jean, on voit ça très clairement. Les sept histoires qui sont racontées, comme celle qu'on a vue avec Pilate, c'est ça, tu sais, Pilate dit, qu'est-ce que la vérité? Ah, c'est dans le pamphlet sur Pâques. Il dit, qu'est-ce que la vérité? Il se lève, il s'en va. C'est pas une personne qui veut savoir. Il est curieux de savoir pourquoi on l'haït tant que ça, mais il n'est pas nécessairement interpellé au point de dire, hey, donne-moi la réponse pour que moi aussi je crois en toi. T'sais. Fait qu'il y a des curieux qui vont répondre à l'appel viens et vois. D'ailleurs, dans le chapitre, vous remarquez combien de fois c'est écrit viens et vois. C'est intéressant. Jésus le dit, Philippe le dit à son frère Nathaniel viens et vois. C'est curieux. Viens, viens rencontrer le Seigneur. Prie-le. Hey, t'as-tu peur que ça fasse mal? Si tu le priais, là, j'ai dit ça à quelqu'un une fois, t'as-tu peur que ça te fasse mal de recevoir le don de la vie éternelle? Fait que là, il m'a regardé, il dit, ouais, c'est vrai, de quoi j'ai peur? Ben, je dis, si tu veux, prie-le, on va le prier ensemble, si tu veux. Et donc, il y a des curieux qui cherchent à discréditer, mais il y a d'autres curieux qui voudraient en savoir plus et éventuellement pourront eux-mêmes être impactés par une rencontre avec le Seigneur et toucher les gens autour d'eux. Le titre de mon message, c'est Une rencontre qui en engendre d'autres. Et la première rencontre que je vais vous raconter, c'est celle de Jean-Baptiste avec Jésus. Juste avant d'aller à mon titre, là, ici, Paul a dit quelque chose d'intéressant. Bien que ce soit Dieu qui fasse les choses, on travaille avec lui. Dans 1 Corinthiens 3, 6 à 8, c'est écrit: J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. On a besoin de séparer le message de nous. Tu sais, on a tellement le désir d'être utilisé par Dieu pour conduire des gens à Jésus que, hey, c'est moi qui ai parlé. Tu sais. Je me rappelle une fois, on est allé voir une femme, puis on était allé de Granby, on était monté jusqu'à Drummond, on est allé rencontrer cette femme devenue sœur. Puis là, on est allé à quelques reprises, tu sais, puis après ça, je suis revenu, tu sais, puis je disais, hey, je l'amène au Seigneur, sauf que les autres, ça fait 20 ans qu'ils l'évangélisent, comprends-tu? Ça fait 20 ans qu'ils sont là, eux autres, qui arrosent, tu sais. Moi, j'arrive, je rafle la récolte, tu sais, puis je dis, hey, c'est moi qui l'amène au Seigneur, tu sais. Puis plus qu'on vieillit, je pense que ça fait partie de l'âge aussi de réaliser que la seule chose que Dieu a besoin pour transporter son messager ou son message, c'est un âme. Quand tu voyais Jésus rentrer en Israël, qu'est-ce qu'il y avait pour le transporter? Un âne. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait besoin de parler à son prophète. Il a pris un âne, hein, avec Balaam. Tu sais. Fait que, tu sais, Dieu n'a pas besoin de nous autres, puis il nous utilise, mais il faut aussi réaliser qu'on est tout petit dans un grand travail que Dieu a commencé dans la vie spirituelle des gens autour de nous. Donc, en séparant le message, en disant, regarde, c'est le message de l'Évangile qui a fait son petit chemin, bonhomme allant, au travers des années. Ben, il y en a un qui a semé, l'autre qui a arrosé, mais c'est Dieu qui s'occupe de faire croître. Il y a comme une gloire qui revient à Dieu, puis nous autres, on est juste comme là, à être des intrus un petit peu, là, pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais pas intrus parce qu'on est invité. Et ça, je trouvais que c'était un beau passage à regarder. Les rencontres. Donc, on va regarder la rencontre de Jean-Baptiste avec Jésus. On est au premier jour. Donc, en fait, on est le deuxième jour. Il y a eu l'interrogation le premier jour, puis là vient le lendemain. Puis là, le lendemain, il dit qu'il voit Jésus venir à lui. Et c'est au verset 29, au verset 34 que je ne lirai pas avec vous. Mais l'auteur laisse la place à Jean-Baptiste. Puis là, c'est Jean-Baptiste qui parle. Pourquoi? Parce que ce qui est important pour Jean, c'est que les témoins oculaires qui ont vu ces choses-là, c'est rapporté dans l'Évangile de Jean. Ce sont des choses qui sont rapportées. Et là, ben là, c'est exactement Jean-Baptiste qui dit, je l'ai vu. Et qu'est-ce qu'il dit qu'il a vu? Eh bien, il dit premièrement, il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Fait que quand il voit rentrer dans l'eau, il dit, voici l'agneau qui enlève les péchés du monde. Et ça, pour un juif du premier siècle, c'est quelque chose qui est très fort dans l'historique du peuple juif. Il y a bien sûr l'histoire avec Abraham où Dieu fait une demande d'offrir son fils en sacrifice pour lui dire non, 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 tu ne lèves pas ta main sur ton fils et il va prendre un bouc qui est pris dans les branches et qui va servir de substitution pour son propre fils. On voit aussi, ça c'est dans Genèse 22:8, mais on voit aussi que tout le système des sacrifices dans l'Ancien Testament servait, par exemple à Pâques, qu'on a vu dernièrement qu'à chaque fois que venait Pâques, il y avait un agneau qui servait de sacrifice pour les péchés du peuple. Donc l'agneau. L'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et Jésus qui meurt le jour de la Pâque prend vos péchés et les miens et les prend sur sa personne et enlève les péchés. Donc, dès les premières pages de l'Évangile de Jean, ce thème est annoncé, il le présente donc dès son baptême à sa rencontre comme étant l'agneau. Si on lit ça dans Ésaïe 53,7, les péchés ont été tombés sur lui. Ésaïe 53,7. Donc, premier témoignage, l'agneau. Deuxième témoignage, une colombe. Il dit qu'il j'ai vu la colombe descendre sur. En fait, il dit j'ai vu le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe, mais lui il ne parle pas d'une voix qui s'est fait entendre des cieux. Il parle pas de ça, mais les autres synoptiques, c'est-à-dire les autres évangiles, les regards synoptiques veut dire d'un autre regard, Matthieu, Marc et Luc. Eux autres, ils décrivent une voix qui s'est fait entendre des cieux. Mais Jean ne parle pas du monde de la transfiguration, l'autre moment où Jésus parle aussi des cieux, fait qu'il il exploite pas ce thème-là, lui, Jean, nécessairement. Dans l'Ancien Testament, nous attendions le Saint-Esprit qui était venu pour venir en nous. C'était déjà écrit, mais c'était aussi le Saint-Esprit excuse-moi. Le Saint-Esprit devait venir sur le Messie, le Sauveur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme trouve plaisir, je mettrai mon esprit sur lui. Fait que, tu étais un juif, puis tu voyais ça, tu voyais une colombe descendre des cieux, puis que tu comprenais que c'était le Saint-Esprit qui était venu sur lui. Tu avais des bonnes pistes là, que c'était le Messie envoyé par Dieu. Et la troisième chose qu'il va dire, c'est qu'il va parler du Saint-Esprit. Il dit, c'est lui, Jean-Baptiste va dire, c'est lui qui va baptiser du Saint-Esprit. Puis là, il dit, celui qui m'avait envoyé baptiser m'avait dit que quand je verrais le Saint-Esprit descendre sur lui, ce serait lui que Dieu utiliserait pour baptiser dans le Saint-Esprit. Et donc, un troisième témoignage, c'est que ceux qui vont croire au Seigneur Jésus vont aussi être baptisés de l'Esprit. Donc, dans l'Ancien Testament, il était connu que le Saint-Esprit serait répandu sur son peuple d'en haut, dans Ésaïe 32,15. Que le Saint-Esprit serait répandu comme on répand une eau pure et que ça accompagnerait un nouveau cœur et qu'il viendrait habiter dans son peuple, dans les personnes. Dans Ézéchiel 36,26 et dans Ézéchiel 37,14, qu'il redonnerait la vie à des ossements desséchés et ferait revivre ceux qui étaient morts en mettant en eux son esprit, la résurrection. Donc, ce serait par le Saint-Esprit que ces choses-là se passeraient. Mais baptisé du Saint-Esprit, quand on lit le Nouveau Testament, plus tard, on découvre qu'être baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire d'être ajouté parmi les rachetés. C'est d'être pris par Dieu, puis être mis parmi les rachetés. Quand vous lisez les synoptiques, puis que Jésus est en train de parler aux pharisiens et à tous ceux qui viennent l'interroger, quand Jean-Baptiste est en train de leur parler, pas Jésus, mais Jean-Baptiste, il leur dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Lui, il vous baptisera d'esprit et de feu. Et après ça, il dit, il engrangera son grain dans son grenier et il jettera la paille dans le feu qui ne s'éteint point. Donc, il parle vraiment d'une séparation entre ceux qui auront reçu le Saint-Esprit ou qui ont reçu la bonne nouvelle, seront pris par le Saint-Esprit, si on peut dire, puis placés dans une réserve, okay, les cieux. Et la paille, c'est ce qui représente les gens qui auront rejeté, refusé la révélation de Dieu dans le feu qui ne s'éteint point. Okay. Donc, le baptême du Saint-Esprit parle vraiment d'être pris par Dieu et placé parmi les rachetés. Et c'est ce que lui va faire, le Seigneur. Donc, le Saint-Esprit est un thème important dans l'Évangile de Jean. Quand Jésus parle à la femme au puits, il lui dit, hey, t'as soif, quand tu viens à ce puits-là, t'as soif, mais moi, je vais te donner une eau que quand tu vas la boire, tu n'auras plus jamais soif. Plus tard, ça, c'était au chapitre 4, verset 10. Plus tard, au chapitre 7, verset 30. 39, il va dire, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront dans son cœur jusque dans la vie éternelle. Et donc, ça parle, puis il dit cela du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, il est celui qui nous donne le Saint-Esprit et celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc, super rencontre importante avec Jésus, qu'on apprend plein de choses de la part de Jean-Baptiste. à partir de son témoignage à propos du Saint-Esprit sur Jésus, le Saint-Esprit dans ceux qui vont croire en lui. Puis là, Jean-Baptiste, lui, il prépare les gens, non pas pour le mal qu'il y a dans le monde, mais pour le mal qu'il y a dans le cœur. Il les prépare à recevoir le Seigneur. Et le lendemain, on est rendu au chapitre 1, verset 35. Verset 35 à verset 42. Et là, on est encore le lendemain. Donc, premier jour, interrogation. Je suis pas ça, je suis pas ça, je suis pas ça. Jean-Baptiste dit, je suis pas ça, je suis pas ça, je suis pas ça. Le lendemain, il est en train de baptiser. Qu'est-ce qu'il voit pas? Jésus, la colombe qui descend. Puis là, il fait ces trois témoignages-là à propos du Saint-Esprit sur lui, le Saint-Esprit dans le croyant. Puis là, fait que là, on est le lendemain. Puis là, il dit, il est assis avec deux de ses disciples. Puis il voit le Seigneur Jésus passer, puis il dit, c'est l'agneau de Dieu. Ils vont encore une fois pointer vers la personne de Jésus, puis on dirait que j'ai pas mis ce PowerPoint-là. Donc, c'est parfait. Fait que là, il y a deux des disciples qui est là, puis là, c'est écrit, un de ceux-là, c'était André, puis l'autre, c'est pas son nom. Sauf que quand tu lis Marc, tu t'aperçois que les quatre premiers disciples, il y avait Pierre en faisait partie, mais Jean en faisait partie aussi. Mais comme Jean, il ne se mentionne pas parce qu'il aime bien pas se mettre en avant, il fait juste dire l'autre disciple ou l'autre disciple qui était là. Tu sais. Mais André, lui, t'en entends parler un petit peu plus. Mais on a des bonnes indications que c'est Jean qui était là aussi. Puis Jean-Baptiste, il dit, c'est l'agneau de Dieu. Et Jean, qu'on va dire Jean, qui est l'auteur est. André, ils se mettent à suivre Jésus. Et là, il y a un transfert d'allégeance qui se passe, là. Jean-Baptiste, il perd des femmes. C'est-à-dire, regarde, c'est lui, suivez-le. Fait que lui, il se dépouille, là. Il se dépouille, regarde, c'est pour ça que j'étais ici. Ce qui est important, c'était pas que vous me suiviez moi, c'est ce que vous suiviez le Seigneur. Puis c'est lui, fait que vous n'avez plus raison de me suivre, vous n'avez plus besoin de je ne suis pas votre rabbin, je ne suis plus votre rabbin ou votre enseignant. Suivez-le, lui. Y a un transfert d'allégeance qui se passe. L'Église, c'est pas une destination. Dieu, il veut pas qu'on aille à l'Église pour devenir chrétien, pas plus que quand on va chez McDo, on devient un hamburger. L'Église, elle n'a pas cette fonctionnalité-là, mais elle est un moyen pour qu'on connaisse le plus le Seigneur. T'sais. Quand tu amènes quelqu'un au Seigneur, tu aimerais bien ça qu'il vienne à ton Église, mais peut-être qu'il va aller dans une autre Église. Puis c'est correct aussi, parce que le but que nous autres, on évangélise, c'est pas pour grossir notre Église en premier, mais bien que ça serait le fun que notre Église grandisse. Parce que quand l'Église grandit, il y a plein de choses qui arrivent. Les serviteurs rentrent chacun dans leur place, puis on fait des plus grandes choses ensemble. Mais quand il y a deux objectifs qui rentrent en collision, grandir mon Église puis amener quelqu'un à Jésus doit prédominer. Alors, j'ai souvent dit que je voulais ouvrir 10 églises en 10 ans. Je suis pas loin de ça, mais contre ma volonté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont allés ailleurs, qui ont fait d'autres choses, tout ça. Tu sais, il y a plusieurs personnes qui ont passé ici. Mais quand tu réalises que nous sommes ici pour que les gens connaissent Jésus et pas qu'ils acceptent l'Église ou une religion, quand on accepte la vie éternelle, on n'accepte pas une religion, mais ça vient avec, ou la famille chrétienne vient aussi avec, mais ma famille chrétienne ne sera peut-être pas toujours la même. Certains ont changé d'église parce qu'ils avaient un nouveau travail, d'autres un autre conjoint, d'autres parce qu'ils voulaient trouver un conjoint, puis le bassin, il n'y en avait pas ici beaucoup de conjoints là, pour eux autres, là. Il y a plein de raisons là, qui ont fait que les gens ils suivent Jésus ailleurs. Puis ça, c'est important. Jean-Baptiste avait saisi ça. Je pense, parce que quand il dit, hey, je ne suis même pas un messager, regarde, c'est mon message qui est important, puis mon message, il n'est pas juste ici. Dans le cas de l'Église Grâce-Vérité, le message est à Victoriaville, il est dans les autres églises évangéliques principalement. Tu sais. Donc, c'est important de comprendre que quand j'évangélise quelqu'un, je parle du Seigneur, même si la personne elle reste à Tombouctou, elle ne viendra jamais ici. Ben, je dois laisser l'agenda de grossir mon Église pour celle du Seigneur qui est encore plus importante. C'est celle que quelqu'un place sa confiance en Jésus, puis elle commence à marcher avec lui. C'est certain que dans Actes 2, 47, c'est écrit, le Saint-Esprit ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Si vous m'écoutez, vous êtes en ligne. Si vous réécoutez ce message-là sur Facebook ou ailleurs, puis vous êtes dans un chrétien, puis à cause, vous êtes chicané à cause de la pandémie dans votre Église, à revenez. C'est le temps de revenir, puis d'appartenir à une famille des enfants de Dieu. Donc, l'Église est un moyen pour faire connaître l'Évangile, pour progresser, puis connaître notre Seigneur, puis apprendre à obéir à tout ce qu'il nous a prescrit. Mais l'Église n'est pas une destination, c'est un moyen. C'est comme si on était un Tim Horton en allant vers Montréal. Votre destination, c'est d'aller à Montréal, mais vous arrêtez au Tim Horton pour prendre un repas, pour servir, pour faire quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu vous appelle pendant une période de temps de votre vie à faire dans une église locale. Mais vous n'êtes pas arrivé à destination quand vous êtes arrivé à l'Église. Vous êtes dans un moyen de connaître Dieu et de le faire connaître autour. Puis ça, c'est important, puis Jean-Baptiste le saisit. À un moment donné, ses disciples viennent le voir au chapitre 3 de l'Évangile de Jean, puis ils disent, hey, tout le monde va vers Jésus, puis c'est lui qui est baptisé maintenant. C'est-tu correct avec toi, Jean? Jean dit, il n'y a rien que je peux faire qui ne m'a pas été donné d'en haut. Qu'est-ce qui m'a été donné d'en haut? Moi, je peux juste recevoir qu'est-ce qui m'a été donné d'en haut. Puis il dit, tu sais, là, quand il y a un mariage, là, je veux dire, oui, l'ami de l'époux, là, il travaille fort, ou là, on pourrait dire l'ami de l'épouse aussi, là, tu sais, décorer la salle, faire les invitations, préparer tout pour que ça soit une super journée mémorable. Mais quand le mariage arrive, l'ami de l'épouse ou l'ami de l'époux se tasse. C'est pas lui qui s'en va embrasser la mariée, tu sais. Ouais, parce que c'est pas son jour. Puis il dit, garde, c'est pas mon jour, c'est ton jour. Puis c'est ça que Jean-Baptiste dit, c'est son jour. Il est paru. Moi, je l'ai annoncé, j'ai fait ce que j'avais à faire, là, je me retire. Mais ça devait certainement être difficile pour Jean-Baptiste. Ce n'est pas un message sur Jean-Baptiste, mais il était en prison, puis à un moment donné, il avait des doutes, puis il dit, es-tu vraiment celui qui devait venir? Parce que si je n'ai pas annoncé le bon, moi, je vais me faire couper la tête bientôt, là. Fait que, tu sais, il avait des doutes, tu sais. Puis ça, on a des doutes aussi quand on sert le Seigneur aussi. Mais écoute, lui, il a dit quelque chose de bien intéressant. Il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. On retrouve ça juste dans l'Évangile de Jean, encore un thème sur l'humilité du témoignage. Puis, tu sais, dans un témoignage qui est important, ce n'est pas la personne, hey, waouh, quel témoin. Non, c'est quel message. Quel message. Si c'est vrai, qu'est-ce qu'il a vu? Si c'est vrai ce qui est arrivé, si c'est vrai que Thomas a vraiment mis les doigts dans les trous, si c'est vrai que les femmes ont vraiment vu des anges sur le tombeau, si c'est vrai, waouh, quelle nouvelle! C'est le message qui est important et non le messager. À l'Église, c'est la même affaire. C'est-tu Jean-Sébastien qui prêche? C'est-tu Gilles qui prêche? C'est-tu Pasteur Richard qui prêche? Hey, c'est qu'est-ce qui était le message? Est-ce que le message était vrai et est-ce qu'il pouvait faire quelque chose pour moi? Oui. Gloire à Dieu. Colossiens 1, verset 28 à 29 dit, c'est lui que nous annonçons, nous exhortons tout homme et on instruit tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, Paul dit, combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Ça coûte quelque chose servir Dieu. Ça coûte quelque chose faire des disciples puis faire comme André. André est allé voir Pierre en passant, puis il a dit à Pierre, hey, j'ai trouvé le Seigneur. Puis Philippe, il a fait la même affaire, il est allé voir Nathaniel. J'aime dire Nathaniel parce que j'ai un petit penchant. Parce que mon fils, en passant, bonjour Nathaniel, vous êtes à Trois-Rivières, il y a Kayla, Nathaniel, puis je pense Mousti qui sont avec eux. Ce matin, ils sont avec nous, puis ça réjouit beaucoup mon cœur. Mais ça demande du travail, même si c'est Dieu qui fait naître, même si c'est Dieu qui répond à la curiosité de la personne, même si il y a un travail chez moi. Il y a un travail chez moi, je vais devoir prendre du temps. Dans une société de distractions, je vais devoir libérer des distractions pour être disponible, pour être ouvert à un collègue de travail, un membre de ma famille, aller visiter. Prendre du temps à inclure dans l'amitié, faire un transport, juste faire un transport, juste dire je vais faire un détour, je vais l'amener à l'église, ça va faire du bien. C'est du temps, c'est de l'énergie, mais c'est important. Puis Paul il dit, c'est moi, je travaille à tout cela, puis il dit, je travaille à tout cela avec l'énergie du Seigneur ou avec la force du Seigneur. C'est de l'énergie de vivre une vie qui modélise la foi pour que les gens disent, je crois pas juste ton message, je l'ai vu. J'ai vu comment tu agis avec tes enfants. J'ai vu comment tu es une personne intègre au travail. Je sais comment te persévérer au travers de la maladie. Je connais ta foi et ça m'inspire. Je veux dire, moi, j'étais comme l'imposteur la semaine passée, il y a 2 semaines, quand Nathalie elle a reçu le don de la vie éternelle. Puis moi, j'ai juste dit, on parlait de sa mère, comment que elle avait vu la foi de sa mère, comment elle t'avait combattu, tu sais. Puis aussi, comment elle avait combattu, comment elle avait dit, hey, Dieu, tu peux pas me prendre ma mère. Puis elle avait commencé à prier. Puis moi, j'étais là. Peux-tu recevoir le don de la vie éternelle, tu sais? J'explique l'évangile à part. C'était super facile. Du beurre dans la poêle. Du beurre dans la poêle, mais il y avait un travail qui a été fait avant moi. Puis j'étais simplement en train de, avec eux, de récolter ça. Tu sais. C'est un travail de marcher avec Dieu. Puis dire, sais-tu quoi, je ne serai pas juste la personne qui proclame l'évangile, je vais être aussi la personne qui vit l'évangile. Quand j'achète 4 calepins, puis je sais que j'ai payé juste pour un, je vais être ce que je dis que Jésus me demande d'être. Puis quand les gens ils vont croire, ben ils vont aussi savoir qu'ils peuvent se référer à moi comme étant quelqu'un qui a appris à obéir à Jésus dans tous les aspects de ma vie. Et donc, Jean-Baptiste, je voulais dire Jean Bâton, parce que Jean Bâton, il passe le bâton à Jésus. C'est comme ma garde. Mais on va devoir continuer avec les gens pour à un certain moment, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus besoin de nous. Puis la femme au puits, à un moment donné, c'est écrit, les Samaritains sont allés voir Jésus au puits parce que la femme avait dit, venez voir le gars qui m'a dit tout ce que j'ai dit. Puis là, à un moment donné, il reste là, il parle avec. Puis là, je pense qu'il y a des jours qui passent. En tout cas, ils disent après, ah, on n'est plus avec toi à cause de la femme. Hein, en passant. On est avec toi à cause de ce que tu nous dis, à cause de toi, à cause de ton message. Jean-Baptiste, c'est un peu ça. Jean-Baptiste, il était là jusqu'à temps qu'à un moment donné, la personne crème, elle soit mature, puis qu'elle croit qui est le Seigneur. Donc, tant qu'il n'était pas là, il était là. Puis avec un disciple, c'est un petit peu la même affaire qu'on va faire. On va être la personne de référence. On va être là pour prendre l'énergie, pour répondre aux questions, pour guider dans la foi. Jusqu'à temps que cette personne-là, ben, elle soit un homme, une femme entière avec le Seigneur. Marc, quand que Marc, il y a Marc et Jean là, qui suivent le Seigneur, Marc, à chaque fois que vous lisez dans l'Évangile de Jean, il est toujours en train de présenter quelqu'un à Jésus. À un moment donné, c'est son frère Pierre. Puis à un autre moment donné, c'est un jeune homme qui a 5 pains, 2 poissons. Puis une autre fois, c'est les Grecs qui cherchent à connaître Jésus. Ils veulent le rencontrer. Fait que Marc, il pogne, il les amène avec eux. Il dit, viens, on va aller voir le Seigneur. T'sais. Fait que Marc, c'est un évangéliste, je pense, dans l'âme, là. Pierre, quand que Jésus le rencontre, il dit, Pierre, il s'appelait Simon. Il dit, Simon, tu ne t'appelleras plus Simon, tu vas t'appeler Pierre, Céphas. Céphas en araméen. Puis je pense que c'est Pierre traduit de l'hébreu, traduit du grec. Il change son nom, puis on s'aperçoit dans la Bible qu'à chaque fois que quelqu'un donne un nouveau nom, tu sais, moi, si je m'en vais, je sais pas, je m'en vais chez Stéphane, puis je renomme ses chats. Il va dire, fais ce que tu veux. Mais que je sois reparti, tu vas le nommer comment? Tu vas-tu changer son nom? Tu vas-tu prendre le nouveau nom que j'ai donné? Hein? Si je l'appelle Pantouf, exemple. Ouais, mais à ce temps que tu sais. En tout cas, si je renomme tes animaux, je me retourne chez nous, je reviens. D'après moi, tu vas continuer à les appeler de leur même nom. Parce que je n'ai pas d'autorité pour renommer tes animaux. Par contre, quand quelqu'un a de l'autorité, dans la Bible, par exemple, à un moment donné, le roi d'Égypte a renommé des gens, il a donné un nouveau nom. Le roi de Babylone a renommé aussi des gens. Dieu a renommé Abraham, Abraham pour Abraham, Israël pour Jacob. Donc, il démontrait par là qu'il avait une autorité. Donc, c'est une démonstration d'autorité. Puis Pierre, ben, Jésus lui dit, tu es Simon, maintenant tu vas t'appeler Pierre. C'est correct. Ça veut dire que Pierre a accepté l'autorité du Seigneur comme étant son rabbin ou en tout cas. Donc, il y a une belle démonstration là. d'autorité. Puis Jésus, ben, il est Dieu sur sa vie. Puis nous aussi, on va avoir un nouveau nom. Vous lirez l'Apocalypse, ça dit qu'il y a un nouveau nom sur un caillou blanc pour tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus. Donc, ça reflète aussi le caractère. Donc, souvent, le nom symbolise quelque chose à propos de ta vie, de ce que tu as fait, de ce que tu vas faire. C'est comme Abraham, son nom est devenu, quand il est devenu Abraham, il est devenu, avant, il était père important, Abraham. Puis Abraham, il est devenu père d'une multitude. Puis Dieu voulait lui faire une promesse qu'il y aurait une grande descendance et les croyants sont sa descendance aussi. Donc, changement de caractère aussi. Donc, Jésus est Dieu, il renomme Pierre, Pierre l'accepte, ça passe. Et là, on est le dernier jour, puis vous pourrez lire à la maison, chapitre, verset 41, 42 à 51. On est le jour 4. Et là, il y a cette idée de monter vers la Galilée, retourner chez nous. Puis Philippe reste dans le même village le prochain. C'est le quatrième disciple qu'on apprend qu'il se fait. Philippe, Jésus dit, suis-moi. Philippe le suit. Pas plus que ça. On le voit nommé dans l'évangile de Jean à certains endroits. Donc, quand les Grecs voulaient venir voir Jésus, il était avec Marc, puis il l'amenait. Mais il a aussi il a dit à Jésus, montre-nous le Père. Puis Jésus dit, ça fait tant de temps que je suis avec vous, puis tu me dis, montre-nous le Père. Fait que, on voit Philippe plus tard là-dedans. Mais Philippe, il fait comme Marc, il s'en va à Nathanaël, il dit, hey, Nathanaël, il dit, j'ai trouvé le Messie. Puis Nathanaël, il est cynique. Cynique, c'est un petit peu, tu crois pas en rien, tu crois jamais les bons motifs. T'sais. Fait qu'il dit, peux-tu vraiment venir quelque chose de bon de la Galilée? T'sais, parce que Jésus, il venait de la Galilée. Fait qu'il est cynique et il va passer de cynique à croyant parce qu'il va se passer une petite discussion avec le Seigneur, puis le Seigneur va lui dire, hey, avant que je te voie, avant que tu me vois, moi, je t'ai vu. Tu étais en dessous du figuier, je t'ai vu. Et il va lui révéler quatre choses, trois choses importantes qu'il y a juste lui qui sait. Puis, il va dire, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Il va dire, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Puis il va dire après, désormais, vous allez voir le Fils de l'homme avec une échelle, puis il y a des anges qui vont monter et descendre sur le Fils de l'homme. Comment est-ce que, si tu dis à quelqu'un, hey, quand tu m'as pas vu, moi je t'ai vu, comment est-ce que ça ferait passer la personne de, hey, il peut rien venir de bon de la Galilée, à, hey, t'es le Seigneur, t'es Dieu. Comment est-ce qu'il peut avoir été convaincu comme ça? Moi, j'arrive des fois à la caisse, je m'en vais chez Walmart, puis ils ont un tag, c'est marqué Ginette, tu sais. Fait que là, j'arrive, puis je dis, salut Ginette, ça va? Mais j'y parle d'un ton que je la connais, tu sais. Puis là, elle me regarde. Là, je cherche à savoir. Mais non, c'est à cause de ton nom que j'ai dit, ah! Fait que là, tu as une pression qui vient parce qu'elle pense que tu la connaissais, puis là, elle s'en souvient pas, fait qu'elle se sent super mal, c'est drôle. Jésus dit, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Puis Nathanaël s'est senti connu par le Seigneur. Puis j'aimerais ça que Ben s'approche. On va faire la scène. 11h10, 11h12, on va avoir le temps pour ça. Pendant que Ben se prépare, la personne se sent connaître. Personne connaît ces détails. Elle connaît ce détail-là. Laissez-moi l'illustrer de différentes façons. Une fois, il y avait quelqu'un qui donnait son témoignage comme ça, c'était un jeune, puis il dit, moi, là, j'étais assez triste dans la vie, là, je dormais, à chaque fois que j'étais triste, je dormais. Puis là, la personne est assise dans la salle, puis elle a dit, c'est parce que moi, c'est mon problème constant. Puis là, après ça, ses yeux sont gros comme des portes de grange, parce qu'elle dit, il y a quelqu'un qui vient de me raconter quasiment ma vie. Le Seigneur, il va faire souvent ça quand on annonce l'Évangile ou que quelqu'un vient à l'Église. Il y a quelqu'un qui va te donner son témoignage ou qui va dire de quoi, puis l'autre va dire qui a dit. Il y a un stou dans la pièce. Dans le Corinthien, il dit, quand une personne non-croyante entre parmi vous, elle est jugée par tous et les secrets des cœurs sont mis en lumière. Ce n'est pas que les gens le savent, c'est qu'ils disent des choses. Puis le Seigneur montre à la personne, hey, dis-tu quoi, je te connais, je te connais. Nathaniel, il était sous le figuier, puis Jésus l'a vu. Puis en Israël, on se plaçait sous un figuier pour aller mémoriser les Écritures, parce qu'on disait que sous un figuier, c'était mieux pour la mémoire. Puis comme il n'y avait pas de Bible écrite ou d'Ancien Testament écrite, eh bien, probablement, et c'est probablement ça qui est arrivé, Nathaniel était en train d'apprendre l'histoire où Jacob, l'homme intègre, qui a une fois une faute, a été reproché d'avoir fait une tromperie, mais ce n'était pas un homme trompeur. Un homme intègre qui vivait sous les tentes. Ça, c'est important. Mais là, il a fait un acte de tromperie. Puis après, dans la nuit, qui s'est sauvé à cause qu'il avait fait une tromperie, puis son frère voulait le tuer, il y a eu une vision avec des échelles où il y a des anges qui montaient et qui descendaient comme ça. Puis Dieu lui disait, hey, je vais être avec toi, tu sais, je vais t'accompagner, tout ça. Donc là, il y a toute cette histoire-là. Puis il dit, quand tu étais sous le figuier, puis il l'a appelé Israélite, un descendant de Jacob. Il dit, tu es un descendant de Jacob, mais toi, en toi, il se trouve aucune fraude. Jacob avait fait une fraude, il s'était retrouvé là avec la vision des échelles. Fait que là, il dit, a été le fils de Dieu. Il passe de sceptique à croyant. Pourquoi? Parce qu'il y a du surnaturel qui est arrivé pendant qu'il y a une proclamation. Puis ça arrive au Seigneur Jésus dans les évangiles et ça nous arrive à nous aussi. Ayez pas peur de parler de votre Seigneur, de parler de Jésus, puis la personne, à un moment donné, elle va se sentir dans un coin. Pourquoi? Parce que peut-être tu vas dire, sais-tu quoi? Prie donc le Seigneur. Demande-y, puis dis-moi-le pas, qu'est-ce que tu vas lui demander. Mais prie-le, là, des choses bien spécifiques. Cherche-le, là, puis demande-lui, là. T'as un problème avec un de tes enfants? Il se passe quelque chose? T'as un conflit au travail? Peu importe. Il manque de l'argent finalement. Peu importe. Dis-moi-le pas. Mais dis-le à lui. Puis là, le Seigneur fait quelque chose. Puis là, la personne est comme, Elle se sent connue par le Seigneur. Là, le message, il rentre encore plus. Fait que nous, on ne va peut-être pas deviner les 10 numéros de son numéro de téléphone à la personne. On ne sera peut-être pas des devins, là, tu sais. Mais on va dire, à un moment donné, il va arriver quelque chose, soit une réponse à sa prière, une conséquence que le Seigneur il est en train d'avoir une danse avec la personne. Il est en train de l'attirer dans une danse pour s'approcher un petit peu plus. Puis nous autres, on est des intrus là-dedans. On voit le Seigneur commencer à bouger dans la vie de la personne, mais il y a une chose qu'on a faite par. On a parlé, puis on ne s'est pas tué. Puis le Seigneur a commencé à faire un mouvement dans la vie de la personne. C'est ce qui s'est passé, je pense, avec Nathaniel. Il a dit le verset qu'il est en train de mémoriser sur Jacob. Il se fait appeler un descendant de Jacob dans lequel il n'y a pas de fraude. Puis c'est comme, c'est beau que tu m'aies vu en dessous du figuier. Moi, je t'ai vu au Walmart. C'est pas la même affaire. C'est pas la même affaire qu'au Walmart. Parce que moi, je te dis qu'est-ce qu'il y avait dans ton cœur quand tu étais au Walmart ou quand tu étais sous le figuier. C'est beaucoup plus que juste dire, hey, Ginette, à cause d'un nom sur la plaque. On ne cherche pas ces choses-là, mais on prie le Seigneur. Seigneur, je suis en train de parler à Jean-Claude, là, au travail, là. J'ai parlé de toi, Seigneur. Agis dans sa vie. Fais quelque chose qui fait que il va voir que tu existes, puis que tu te soucies de lui, tu le connais par son nom, tu sais. Puis, moi, je vais continuer à l'évangéliser, puis je vais être un témoin de l'accouchement. Un peu comme un intrus, mais Dieu m'a laissé rentrer puis il m'a dit que je pouvais assister à ça. Jean-Baptiste en parle à Jean et Marc. Marc en parle à Pierre. Jésus en parle à Philippe. Philippe en parle à Nathanaël. Puis moi, ben, j'en parle aussi aux gens qui sont autour de moi et je prie pour que du surnaturel aussi qui vienne m'aider là-dedans, là, pour que la personne elle sorte de son tourbillon et elle réalise que Jésus l'aime personnellement. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse.